Lizzie présente La Vague de Todd Strasser, lu par Pierre Ancis. Chapitre 1. Assise dans la salle du journal du lycée Gordon, Laurie Saunders mâchouillait le bout d'un stylo bic. C'était une jolie fille aux cheveux châtains coupés courts qui souriait presque tout le temps, sauf lorsqu'elle était préoccupée ou qu'elle mordillait un stylo. Ces derniers temps, elle en avait rongé des tonnes. En fait, il n'y avait pas un seul crayon ou stylo dans son sac qu'elle n'ait pas mâché nerveusement. Pour lutter contre le stress, c'était toujours mieux que la cigarette. Laurie balaya la petite salle du regard. Elle était remplie de bureaux, de machines à écrire et de tables lumineuses. À cette heure-ci, la rédaction du Gordon Grapevine, le journal de l'établissement, aurait dû être en pleine ébullition, les journalistes en herbe apportant la dernière touche à leurs articles et les maquettistes finalisant la mise en page du dernier numéro. Pourtant, à part Laurie, la salle était déserte. Et tout ça pourquoi ? Parce que, dehors, il faisait un temps splendide. Elle sentit le bout du stylo craquer entre ses dents. Sa mère l'avait mise en garde contre cette manie, lui prédisant qu'un jour, un de ses stylos finirait par se briser dans sa bouche et qu'elle s'étoufferait avec. Seule sa mère pouvait sortir un truc pareil, pensa Laurie en soupirant. Elle leva les yeux vers la pendule murale, plus que quelques minutes. Aucune règle n'obligeait ses camarades à venir travailler au journal pendant les heures de perm. Mais tout le monde savait que la prochaine édition du Grapevine devait sortir la semaine suivante. Ne pouvaient-ils donc pas oublier leur frisbee, leurs cigarettes et leur bronzage pendant quelques jours, histoire de boucler le numéro à temps ? Elle rangea son stylo dans son sac avant de ramasser ses cahiers pour le cours suivant. C'était désespérant. Depuis 3 ans qu'elle travaillait au journal, le Grapevine avait toujours paru en retard. Elle avait beau être la nouvelle rédactrice en chef, cela n'y changeait rien. Tant que les autres ne s'y mettraient pas, le travail n'avancerait pas. Elle referma la porte du bureau derrière elle et traversa le couloir, presque désert. La sonnerie de l'interclasse n'avait pas encore retenti et seuls quelques lycéens traînaient ici et là. Elle passa devant 2 ou 3 salles et s'arrêta pour jeter un coup d'œil par la fenêtre. À l'intérieur, Amy Smith, sa meilleure amie, une fille menue à la chevelure blonde digne de boucles d'or s'ennuyait ferme. Laurie compatissait. L'année passée, elle avait, elle aussi, suivi le cours de français de M. Gabondi, une des expériences les plus pénibles de toute sa vie. Le professeur, un petit homme basané et trapu, semblait toujours en sueur, même par la plus froide des journées d'hiver. Pendant ses cours, il parlait d'une voix monotone capable d'endormir les élèves les plus attentifs. Le contenu n'était pas difficile à suivre, mais Laurie avait eu toutes les peines du monde à rester suffisamment concentrée pour obtenir un A. En observant sa copine lutter pour ne pas perdre le fil, Laurie décida de passer à l'action et de lui changer les idées. Elle se cacha derrière la porte, le visage près de la vitre. De sa place, Amy pouvait la voir, mais pas M. Gabondi. Quand Laurie loucha en prenant un air bête, Amy se couvrit la bouche pour réprimer un éclat de rire. Laurie fit une autre grimace. Amy essaya de ne pas la regarder, mais ne put s'en empêcher tant elle guettait la suite. Puis, Laurie fit sa célèbre imitation du poisson. Tirant sur ses oreilles, elle loucha de nouveau et arrondit ses lèvres en cul de poule. Amy se retenait tellement de rire que les larmes lui montèrent aux yeux. Laurie savait qu'elle aurait dû s'en tenir là. Mais elle s'amusait trop. Si elle continuait ses grimaces, Amy allait probablement tomber de sa chaise et se rouler par terre dans l'allée entre les bureaux. Laurie n'y résista pas. Elle se tourna dos à la porte pour ménager son effet, leva les yeux au ciel et tordit sa bouche vers le haut avant de faire volte-face. Dans l'embrasure de la porte se tenait un monsieur Gabondi furieux. Derrière lui, Amy et le reste de sa classe étaient pliés en deux. Laurie en resta interdite, mais avant que le professeur ait eu le temps de la réprimander, la sonnerie retentit et les élèves se précipitèrent dans le couloir. Amy sortit en se tenant les côtes. Tandis que M. Gabondi les fusillait du regard, les deux lycéennes s'éloignèrent bras dessus, bras dessous vers leur prochain cours, trop essoufflées pour rire davantage. Dans la classe où il enseignait l'histoire, Ben Ross était penché au-dessus d'un vidéoprojecteur, essayant désespérément d'insérer un film dans le labyrinthe complexe de molettes et de lentilles de l'appareil. Au bout de la quatrième tentative, il n'avait toujours pas compris comment s'y prendre. Frustré, il se passa la main dans ses cheveux châtains ondulés. Toute sa vie, il avait été démuni devant les machines. Les vidéoprojecteurs, les voitures, même la pompe en self-service à la station à essence du coin le rendaient fou. Il n'avait jamais réussi à trouver la raison de sa maladresse, si bien que, question machine, il s'en remettait à sa femme, Christy, qui enseignait la musique et le chant au lycée Gordon. Chez eux, elle s'occupait de tout ce qui nécessitait un peu de dextérité. Elle aimait à répéter qu'on ne pouvait même pas demander à Ben de changer une ampoule. Ce qui était exagéré de l'avis de ce dernier. De toutes les ampoules qu'il avait changées dans sa vie, il ne se rappelait en avoir cassé que deux. Depuis son arrivée au lycée Gordon, Ben et Christy n'y enseignaient que depuis 2 ans, il avait réussi à dissimuler son manque d'habileté. Plus exactement, sa réputation grandissante de jeune professeur hors pair avait occulté le reste. Les élèves de Ben admiraient son enthousiasme. Il s'investissait tant dans ses cours qu'il s'y intéressait malgré eux. Il était « contagieux », affirmait-il, leur façon à eux de dire qu'il était charismatique. En revanche, Ross ne faisait pas l'unanimité parmi ses collègues. Certains étaient impressionnés par son énergie, son dévouement et sa créativité. On disait qu'il apportait une perspective nouvelle au cours et, quand il le pouvait, il tentait de montrer à ses élèves les côtés pratiques, utiles de l'histoire. S'ils étudiaient le système politique, ils divisaient la classe en parties. S'ils se concentraient sur un procès célèbre, il désignait parmi son auditoire un accusé, les avocats de l'accusation et de la défense, et le reste constituait le jury. Mais d'autres enseignants manifestaient plus de réserves. Certains, le décrivant comme jeune, naïf et trop zélé, affirmaient que dans quelques années, il se calmerait et ferait son cours normalement, avec beaucoup de lectures obligatoires, des contrôles toutes les semaines et des cours magistraux. D'autres encore réprouvaient son habitude de venir au lycée sans cravate ni costume. Un ou deux auraient peut-être admis être simplement jaloux. S'il y avait bien une chose qu'aucun professeur ne pouvait lui envier, c'était son incapacité à mater un vidéoprojecteur. Lui, d'habitude si brillant, en était réduit à se gratter la tête, les yeux rivés sur la pellicule s'échappant de l'appareil. Dans quelques minutes, ses élèves de terminale allaient arriver. Il attendait de leur montrer ce film depuis des semaines. Pourquoi l'école de formation des professeurs n'avait-elle pas prévu un cours sur le maniement des vidéoprojecteurs? Ross rembobina la pellicule et la remit dans sa boîte. Il trouverait bien un petit prodige de l'audiovisuel parmi ses élèves qu'il installerait en un instant. Il retourna à son bureau où il prit la pile de devoirs corrigés qu'il voulait rendre avant la projection du film. Les notes étaient de plus en plus prévisibles, pensa Ben en feuilletant les copies. Comme d'habitude, il y avait 2 A pour Laurie Saunders et Amy Smith, un seul A moins, puis le lot normal de B et de C, et pour finir, 2 D. Le premier allait à Brian Emmon, le quarterback de l'équipe de football américain. Loin d'être idiot, il aurait pu mieux faire s'il s'était donné un peu de mal, mais les mauvaises notes semblaient l'amuser. L'autre D était pour Robert Billings, le souffre-douleur de la classe. Ross secoua la tête. Le petit Billings lui posait un sérieux problème. À la sonnerie, les portes s'ouvrirent en claquant et les élèves se ruèrent dans les couloirs. Bizarrement, ils semblaient toujours pressés de quitter un cours, mais prenaient tout leur temps pour se rendre au suivant. Dans l'ensemble, Ben trouvait que la vie au lycée était aujourd'hui plus agréable que par le passé. Néanmoins, quelques détails le tracassaient. Le premier problème, c'était la désinvolture de ses élèves vis-à-vis de la ponctualité. Parfois, le temps que tout le monde s'installe, il perdait entre 5 et 10 précieuses minutes de cours. À son époque, si on n'était pas en cours à la 2e sonnerie, on avait du souci à se faire. L'autre problème concernait les devoirs à rendre. Les gosses ne se sentaient même plus obligés de les faire. On pouvait toujours s'époumoner, les menacer de leur coller un F ou de les envoyer en retenue, ils s'en moquaient. Les devoirs étaient devenus, pour ainsi dire, facultatifs. Comme l'avait résumé un de ses élèves de seconde, « Bien sûr, Monsieur Rose, je sais que les devoirs sont importants, mais ma vie sociale passe avant tout. »